Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. Rendez-vous exceptionnel. On refait le match ce soir avec un invité exceptionnel, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, en ce samedi 5 juin. Bonsoir Didier Deschamps.
Bonsoir.
Clairefontaine, lieu de résidence de l'équipe de France de football, dont RTL et M6 sont partenaires, vous le savez. Merci de nous accueillir en ce moment de la saison. Et d'ailleurs, nous mesurons le privilège qui nous est fait. 3 jours après la victoire face au Pays de Galles, 3 jours avant France-Bulgarie, retransmis sur M6 et comme à chaque fois que les Bleus jouent sur l'antenne de RTL, et à 6 jours du coup d'envoi du championnat d'Europe des Nations. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15. Ensuite, nous rejoindrons Sébastien Tarago et Stéphane Poels. Mais durant cette première partie d'émission, et pour vous interroger, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir chef.
Et Dominique Sévérac, le Parisien aujourd'hui en France, partenaire du service des sports. Je ne suis pas certain que Dominique Sévérac soit encore chef au sein de la rubrique football.
Non, il ne veut pas.
Bonsoir
à tous, bonsoir Didier.
Bonsoir partenaire.
Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Didier Deschamps, premier match de l'équipe de France, ce sera contre l'Allemagne, ce sera le 15 juin, match de préparation, on l'a dit en ouverture, mercredi, 3-0 face au Pays de Galles, avant celui de la Bulgarie. Avez-vous été convaincu, avez-vous été rassuré, ou êtes-vous encore interrogatif à l'issue de ce match contre les Gallois ?
Rassuré, j'étais pas inquiet, donc je suis pas rassuré. Je suis satisfait de ce qu'on a pu faire, en sachant évidemment que c'est qu'une première étape. Il y a des choses encore à améliorer, à peaufiner à travers le deuxième match qu'on aura contre la Bulgarie pour être prêt pour ce premier match le 15, mais en tenant compte de la charge de travail qui avait été effectuée, les entraînements, c'est une chose, c'est important. Ils sont importants, mais rien ne remplace la compétition et l'adversité. On est tombé sur une équipe galloise qui avait beaucoup d'agressivité, même si le fait de perdre un joueur nous a facilité la tâche. Ça peut arriver aussi, mais on a fait de bonnes choses avec le groupe qui n'était pas encore au complet. Là, ça sera certainement le cas pour le match contre la Bulgarie.
Exclusion effectivement d'un joueur gallois et rapidement, vous avez joué donc à 11 contre 10. Pour qu'on comprenne bien, et ça a changé d'ailleurs quelque chose dans ce match, pour qu'on comprenne bien également le jeu de l'équipe de France, c'est à l'avenir d'ailleurs de laisser davantage le ballon ou de avoir la possession de ce ballon. On a vu des séquences différentes tout au long de ces 90 minutes.
Non, il n'y a pas de laisser le ballon à l'adversaire. Plus on l'a, mieux c'est. Et c'est à eux de s'adapter à nous. Mais c'est un rapport de force. Donc quand on ne l'a pas, il faut qu'on soit efficace aussi. Donc il y a des équilibres à trouver. C'est plus embêtant du côté gallois quand on est dans un match de préparation d'être réduit à 10. Il y a des efforts supplémentaires. Et évidemment, avec un joueur de moins, ça favorise la possession de l'adversaire. Donc on l'avait malgré tout lorsqu'ils étaient à 11 contre 11, on l'a eu encore plus évidemment lorsqu'ils ont été réduits à 10.
Philippe Sanfourche.
Cette équipe est championne du monde et va essayer d'être championne d'Europe, donc il y a une analogie qui est évidente avec l'époque 98-2000. On avait vu aussi une évolution quelque part d'un style peut-être plus affirmé offensivement en 2000 par rapport à 98. Est-ce que vous êtes dans la même logique aujourd'hui ?
C'est pas une logique. L'évolution est liée de toute façon en s'appuyant sur ce qu'on a très bien fait en 2018. Et les joueurs, il y en a beaucoup qui étaient en 2018 et qui sont là, qui ont pris 2 ans d'expérience, de vécu aussi. Donc évidemment, j'ai bien conscience d'avoir à disposition un potentiel offensif très important. Ils ne pourront pas tous débuter. Il y aura des options en cours de match aussi. Mais je considère aujourd'hui, tout du moins sur le papier, qu'on n'est pas moins fort qu'en 2018. Après, de là arriver au résultat...
Ce potentiel offensif dicte un glissement, justement, vers un jeu plus offensif.
Non, ce n'est pas un glissement. Après, j'avais pas, et nous n'avons pas, et j'ai surtout pas transmis d'idées restrictives ou négatives en 2018. On a été très fort sur tous les plans, Quoi qu'on puisse dire, on a eu une efficacité offensive de haute qualité en marquant des buts sur phase arrêtée, sur attaque placée, sur attaque rapide. Par moment, et certains matchs, on a beaucoup subi. On a très bien défendu, mais moins on subit, mieux c'est. Je pars toujours et je construis une équipe toujours avec la même ligne directrice, pardon, c'est de créer des difficultés à l'adversaire, se créer des occasions et marquer des buts. Mais il y a deux phases dans le football, on a le ballon, on l'a pas. Et quand on l'a pas, il faut qu'on soit aussi capable d'être efficace.
Dominique Sévrac.
Didier, le 15 juin, vous rencontrez l'Allemagne pour l'Euro, c'est le début. Vous dites souvent qu'il faut être prêt pour le 15 juin. Ouais. Est-ce que vous avez votre 11 en tête ou il y a encore des doutes ?
On n'est pas à l'abri d'impondérables qui peuvent arriver à tout moment, mais dans mon esprit, oui, bien évidemment. Est-ce que ça sera ce 11-là ? Je l'espère, même si, je le répète, on ne va pas gagner à 11. Il y a des options selon l'évolution du match, mais oui, heureusement que j'ai les idées claires, mais d'ici là, il peut avoir, on ne sait pas, à travers les entraînements, il y aura un match aussi mardi, donc il y a des plans B, C, D.
Mais oui, parce qu'en 2002, Didier Deschamps, l'équipe de France sortait d'un joli titre européen, elle avait été championne du monde en 98, elle était largement favorite, tout le monde la voyait gagnante et on a vu le résultat, pas un match de gagné en phase de poule, élimination, certes il y avait eu la blessure de Zidane. Kingsley Coman dit que cette équipe de France est la meilleure du monde et dans le baromètre Odoxa Winamax RTL, les Français sont d'accord avec l'attaquant du Bayern Munich, 51% des Français et 76% des amateurs de foot sont d'accord avec Kingsley Coman. C'est de la suffisance, c'est de l'arrogance, c'est de la confiance. Voilà. Est-ce qu'il y a eu recadrage ?
Non, mais c'est de l'interprétation. Après, si vous me parlez 50%, ça fait un Français sur deux. Donc il y en a un sur deux qui n'est pas d'accord avec Kingsley. Kingsley, comme tout joueur, a son propre sentiment, qui a une grande confiance. Voilà, il fait partie de ces joueurs de très très haut niveau et avec les partenaires qu'il a. Aujourd'hui, de dire que l'équipe de France est un candidat au titre ou un favori pour le titre de champion d'Europe, oui, on va pas, je peux pas dire le contraire, mais à partir de ce postulat-là, ça va pas se faire en claquant des doigts et ne pas ces paroles, ne pas les interpréter comme de la suffisance ou un excès de confiance. La qualité est liée, le talent est lié, mais il faudra d'autres ingrédients aussi.
Mais en coulisses, il y a des champs face au micro, évidemment, vous ne le faites pas, mais en coulisses, vous ne leur dites pas de calmer un peu le jeu.
Non, après, c'est pas... ça vient pas que des joueurs. Je pense que l'ambiance générale extérieure est plutôt positive ou ultra positive.
C'est pas un danger d'être ultra positif.
Danger, après, quand on est dans la difficulté, on dit c'est pas l'idéal, il vaut mieux la tranquillité et la sérénité. Ce dont je suis sûr, et c'est pas spécifique au football, c'est que le sportif français, lorsqu'il est mis dans un confort, c'est pas là où il est performant.
Didier Deschamps, invité exceptionnel dont fait le match à Clairefontaine, le lieu de résidence de l'équipe de France de football. Pour les questions, c'est Philippe Sanfourche de RTL et Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France. Après une première page de publicité, Didier Deschamps parlera de cette attaque de feu, justement, avec Griezmann, avec Mbappé et avec un certain Karim Benzema.
Et les autres ?
Si, les autres aussi. Ah oui, mais là, c'est le manager. C'est le manager qui parle et qui doit effectivement manager 26 joueurs. À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Retour à Clairefontaine avec Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France pour un On refait le match exceptionnel. Philippe Sanfourche, cette attaque de feu dont on parlait avant la publicité. Il y a les autres, il y a Benzema, il y a Griezmann, il y a bien sûr Mbappé, mais il y a les autres.
Oui, il y a une grosse densité. J'ai le souvenir qu'en 2016, vous aviez fait un bilan des entrants, des joueurs offensifs qui n'avaient peut-être pas été suffisamment saignants. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la principale différence dans l'évolution ? C'est que vous sentez que chacun est capable d'apporter à tout instant, même 5 minutes en fin de match ?
On le verra. Ça n'a pas été une de nos qualités. Je pense qu'on en a montré beaucoup depuis de nombreuses années. C'est pas notre point fort, c'est pas spécifique à 2016. Il y a eu tous les matchs qu'on a pu jouer dans la saison. C'est vrai que ceux qui sortent du banc et rentrent, ils sont là pour amener un plus.
Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être remplaçants dans leur club.
Ça peut aussi, mais c'est difficile. C'est une situation toujours difficile de rentrer parce que le rythme est élevé. Mais c'est important. On en a eu sur cette année qu'on vient de jouer avec les matchs au moins à l'automne aussi, où des joueurs qui rentrent du banc et qui font la différence. Là, on juge plus les joueurs offensifs, parce que ça peut être des options aussi pour remplacer des joueurs défensifs. Là, ça se voit moins, mais quand il y a un offensif qui rentre, c'est surtout, on remarque qu'il est important s'il marque ou il fait marquer. Quoi. Donc, mais c'est quelque chose d'important, d'autant plus que maintenant avec 5 changements, il y a la possibilité de modifier, d'avoir une palette un peu plus large dans les changements.
5 changements, 26 joueurs dans le groupe, Dominique Sévrac et Karim Benzema également à la tête de cette équipe de France.
Pourquoi est-il revenu finalement Karim Benzema ?
Parce que je l'ai sélectionné. Autrement, il n'aurait pas pu revenir.
Attendez, vous l'avez convoqué ?
Sélectionné.
Là, pour les matchs de préparation et la sélection ?
Mais je sélectionne.
Vous le sélectionnez ?
Non, non, convoqué. Moi, je suis pas un avocat ou un juge. Je fais juste des. Il y a des pré-convocations et après, il y a des sélections.
Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, attendez, il peut se passer plein de choses dans la vie d'un groupe, qui jouera, qui ne jouera pas, etc. Et
on oui, pour tout le monde. Mais j'ai un groupe de 26. Évidemment, c'est la complexité de la gestion humaine, parce que je suis ramené, comme tous mes collègues sélectionneurs, à chaque match, en mettre 3 en tribune. Donc déjà, 23, c'était pas évident, parce qu'il y en a qui, déjà, ne jouaient pas, jouaient peu ou ne jouaient pas. Là, il y en aura certainement encore plus. Mais bon, de par le contexte particulier...
Mais vous cherchez à banaliser le retour de Karim Benzema. Vous avez parlé de non-événement.
Oui, mais c'est la réalité.
Et vous avez donné très peu d'explications sur le fait qu'il était revenu.
Mais je vous en donnerai pas plus.
Quelle est la stratégie, Didier ?
Non, mais c'est pas... Après, je comprends que ça puisse intéresser beaucoup de personnes à partir du moment où, je vous répète, on s'est vu, on a eu une longue discussion qui m'a amené à réfléchir. À partir du moment où je sélectionne Karim, il fait partie d'un groupe. Et Karim a l'attitude qu'il avait aussi avant. Il est dans un groupe, c'est pas lui et les autres, c'est lui avec les autres.
C'est un choix uniquement sportif ?
Pourquoi ça serait un choix quoi ? Vous allez interpréter encore comme les gens tordus qu'on m'a obligé ? J'ai déjà répondu à cette question. Mais
ce n'est pas une question tordue, si c'est un choix sportif.
Non, je n'ai pas dit la question tordue. C'est pour des gens tordus qui peuvent interpréter. J'ai toujours eu, depuis que je suis sélectionneur, je vous le redis encore une fois, mais vous aimez bien que je me répète, je fais des choix dans le sens de ce que je pense être le bien de l'équipe de France.
Et choix sportif qui est intervenu après la séquence de mars ou avant, finalement ? On a le sentiment quand même que ça s'est produit avant.
Ne me demandez pas, peu importe si ça ne s'est pas passé comme ça
en
mars.
C'est important, c'est important.
Non, mais si ça s'était... Pourquoi en mars, vous n'êtes pas content ? Moi, je n'étais pas mécontent. Hein. Quand je vois ce qu'ont fait nos adversaires... Oui, mais vous, il n'y a qu'à l'étranger où ils sont vraiment admiratifs de ce qu'on fait. En France, vous regardez les autres, vous avez vu les résultats ? Jouer 3 matchs en 9 jours.
7 points sur 9, c'est ça ?
7 points sur 9,
deux buts de moyenne, mais malgré tout.
On peut en mettre 8 aussi, c'est pas... Non, et indépendamment, qu'on n'ait pas eu les 3 matchs qu'on a fait, c'est pas les meilleurs matchs qu'on ait fait en tenant compte des situations, parce que j'ai eu, comme c'est le cas de beaucoup de grandes nations, des joueurs qui arrivent fatigués déjà, avec pas mal de fatigue en mars et fatigue psychologique, mais c'est pas ça qui m'a poussé... à faire la démarche et à sélectionner Karim. Si ça s'était bien passé, très certainement, il aurait été là aussi.
C'est une information.
C'est une non-information. Comme c'est un non-événement, pour moi, c'est une non-information. Comme s'il y en a qui peuvent penser, oui, que X, Y a pu influencer. Vous pouvez faire les campagnes médiatiques que vous voulez. Il n'y a pas une personne qui va m'appeler, quelle que soit sa responsabilité dans les politiques ou autres, pour me dire, il faut prendre celui-là ou il faut prendre celui-là. Autrement, je ne serais plus là à parler devant vous.
Vous m'autorisez une théorie, Didier Deschamps ?
Théorie, je ne sais pas. Allez-y.
Ce n'est pas un choix. C'est un choix sportif, dites-vous.
Je fais que des choix sportifs.
Ce n'est pas un choix politique. Mais il y a aussi peut-être un choix un peu humain.
Dans tous les choix sportifs que je fais, il y a une personne,
vous
un
avez
joueur.
Souffert et votre entourage a souffert. Oui,
mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais...
Quand on vieillit, quand on prend de l'âge de la bouteille.
On se bonifie comme le vin.
Alors, il y a deux possibilités. Il y en a qui deviennent vraiment cons quand on vieillit. Et puis, il y en a effectivement.
Mais pour certains, je suis peut-être devenu con.
Non. Et il y en a qui veulent tourner la page, qui veulent se mettre à jour avec une actualité passée, qui ne veulent plus avoir ce genre de conflit et se dire, allez, on tourne la page, il faut faire.
Écoutez,
c'est pas une bonne théorie.
Je sais pas, la théorie, chacun a sa propre vision de la vie.
C'est pas un bon raisonnement.
Ce que je suis sûr, c'est que lui, il en avait besoin, moi, j'en avais besoin. Mais au-delà de ces besoins similaires, c'est que ma situation personnelle, elle passe toujours au second plan. elle a toujours passé au second plan, parce que j'ai eu certaines situations avec certains joueurs. Est-ce que j'ai dit une seule fois que Karim Benzema n'était pas sélectionnable? Jamais. Jamais. J'aime pas prendre de position radicale, donc à partir de là, mais je peux avoir un problème ou une situation relationnelle compliquée avec certains, il y en a eu d'autres. Après, tout dépend où on place le curseur, mais moi je passe au-dessus de ça, c'est pas mon cas personnel, l'équipe de France elle m'appartient pas.
Philippe Sanfourche.
Didier, sur le sportif, Karim Benzema, il est incontournable sportivement depuis plus longtemps qu'il y a 3 semaines. Donc ça aurait pu intervenir avant.
Enfin, ça aurait pu, ça n'a pas pu.
Si vous,
en contrepartie, je vous dis, est-ce que l'équipe de France n'a pas obtenu de bons résultats?
Si, bien entendu.
Alors,
mais alors, en quoi est-ce qu'il apporte plus au groupe maintenant qu'il ne le pouvait le faire il y a 3 mois ou il y a 6 mois? C'est le timing qui interpelle beaucoup par rapport
timing, à... Le timing, ça ne s'est pas fait. Lui, il n'y peut rien, moi, je n'y peux rien non plus. Ça ne s'est pas fait, on ne va pas... Vous pouvez peut-être vous faire des nœuds au cerveau si vous avez envie. Nous, c'est passé, le passé, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah si. Ça ne sert à rien, on ne peut rien changer. 2007. Ce qui est derrière, ce qui est important aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain. Voilà, et il est là.
Dominique Sévrac.
Alors aujourd'hui et demain, ce qu'on a vu contre
aujourd'hui surtout.
Ce qu'on a vu contre les Gallois, c'est au coup d'envoi Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Ce sont les trois indéboulonnables. C'est l'attaque de l'équipe de France.
C'est une option et là aussi, c'est pas parler que des trois, même si c'est les trois offensives, mais ils dépendent de ceux qui sont derrière, les trois milieux de terrain et les quatre défenseurs. Ils vont pas résoudre tout que les trois. Après, qui est des un relationnel technique, des automatismes quand on a le ballon avec ce sont des joueurs de très très haut niveau qui sont intelligents, évidemment il y a des choses à travailler, à peaufiner, mais avec deux options différentes aussi, et c'est pas les trois et les autres comme ça a pu être dit, non c'est un ensemble. J'ai pris 8 joueurs offensifs. Ils peuvent à tout moment avoir un rôle à jouer, comme ces trois-là, mais s'ils sont moins bien, voilà, j'ai un groupe
pas de passe droit. C'est pas les trois titulaires
incontestables. Avec moi, les passes droits.
Didier Deschamps.
La seule vérité, c'est celle du terrain.
Didier Deschamps, invité dans Fait le match. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 de Clairefontaine.
On refait le match sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Retour à Clairefontaine, on fait le match. Didier Deschamps avec Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac pour Le Parisien aujourd'hui en France. On a parlé de Benzema hors terrain. Benzema sur le terrain. Moi, j'ai une toute petite question qui m'interpelle. Le match de Benzema vous a vraiment plu contre le Pays de Galles? Si Olivier Giroud avait joué.
Il n'a pas joué, il n'était pas. Je ne l'ai pas mis sur la feuille de match.
Mais pendant 5 ans, on a entendu si Benzema avait joué. Donc, on peut avoir le raisonnement inverse.
Si vous voulez, ça vous appartient. Moi, je ne me pose pas la question.
Il n'a pas marqué. Il a eu des occasions. Il a eu un pénalty. Il ne l'a pas transformé. Olivier Giroud se serait fait désosser.
Je ne sais pas. Si vous le dites, certainement, puisque vous faites partie de ceux qui peuvent désosser. Donc, moi, je désosse pas, moi, je défends, quels qu'ils soient les joueurs. Et j'ai défendu Karim quand j'ai dû le défendre, même si ça remonte à quelques années, il ne faut pas l'oublier. Et je défends Olivier.
C'est le retour du fils maudit, Benzema. C'était votre deuxième fils.
Non, j'en ai qu'un, il s'appelle Dylan. Et je le salue d'ailleurs. Mais non, j'en ai qu'un. Après, j'avais une très bonne relation avec Karim. Elle est très bonne aujourd'hui. Je me suis permis de dire qu'elle avait évolué. Ben oui, elle a évolué, mais c'est pas évolué. Dire, oula, il y a quelque chose de suspect. Mais j'ai pas que Karim, j'ai les autres. Après, sur le contenu de son match, il y a quand même, malgré tout, même s'il a une expérience de très haut niveau, il y a un côté émotionnel, le fait qu'il revienne. Ça aurait été bien pour lui, comme tout attaquant qui puisse marquer. Il a eu les opportunités pour le faire, mais au-delà de ça, oui, il a été dans beaucoup d'enchaînements et il a porté beaucoup de choses sur l'animation offensive.
Philippe Sanfourche.
Didier, pour que tout marche bien sur le terrain, il faut que tout marche bien dans les têtes.
Oui, il vaut mieux.
Le retour de Karim Benzema, forcément, il rompt un petit peu certains équilibres. Il change certains équilibres. À partir du moment où on fait rentrer quelqu'un d'important dans un groupe, forcément, ça évolue en bien, en mal, c'est pas le problème. Mais ça évolue, ça change un petit peu les équilibres.
Vous posiez la question, vous pensez pas qu'avant de prendre cette décision, j'ai suffisamment réfléchi pour savoir qu'il allait avoir aucune conséquence négative? Parce qu'il y a des conséquences négatives, ça fait partie. C'est pas Karim, n'importe quel joueur, il y en a eu d'autres. À un moment où il y a la balance.
Donc mais vous l'avez pensé, donc c'est que ça existe.
Mais pensé,
par rapport à Kylian
dans
Mbappé,
ma réflexion, ça rentre dans beaucoup de choses, dans l'échange aussi, les questions que je lui ai posées, les réponses qu'il m'a posées, les questions qu'il a pu me poser à moi aussi. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail.
Par rapport à Kylian Mbappé, c'est un garçon qui est en train de devenir une star mondiale du foot.
Et il n'y a pas de place
il
pour tout le monde.
Il prend de la place, il prend beaucoup de place. Certains peuvent même penser qu'il en prend peut-être un petit peu trop. Est-ce que le retour de Karim Benzema, justement, eh ben, ça permet aussi de lui mettre du talent, un statut important et quelque part de le remotiver, de le rebooster différemment dans un autre cadre.
Vous lui demanderez, mais je pense qu'il a répondu.
Vous, votre volonté de manager?
Ah, mais ma volonté, c'est que chacun a une place, même ceux qui ne jouent pas. Après, il y en a qui en prennent plus, mais où la place...
C'est pas l'affaiblir, hein?
Pardon?
C'est pas l'affaiblir que de l'associer à Karim Benzema.
Ah ben non.
C'est lui
non,
donner
non.
une
chance
de s'exprimer.
Non, mais il est heureux et content, comme il était très content. Évidemment, il y a les joueurs offensifs, ils ont envie, c'est eux qui sont mis en lumière de par ce qu'ils font, parce qu'ils ont cette capacité très souvent à faire gagner les matchs. Donc, mais il y a de la place pour tout le monde. C'est pas après, il peut avoir des statuts. Après, c'est plus dans la vie de groupe où il y a des équilibres. Mais cet équilibre est toujours là parce que je sais très bien aussi dans le groupe que j'avais, le noyau dur. Au-delà des joueurs de haut niveau, c'est au niveau de l'intelligence et ce que j'attends d'eux dans la vie de groupe. Je sais qu'il y a pas de souci de ce côté-là.
3 minutes avant 19h, Dominique Sévrac, Le Parisien aujourd'hui en France.
Il y a de la place pour tout le monde, Didier, mais le foot, ce sont des égaux aussi.
Oui.
Chacun veut être ballon d'or. En tout cas, Benzema l'a dit, Kylian Mbappé l'a ouvertement affirmé.
Moi aussi, mais je ne l'ai jamais été. Mais,
mais vous le serez peut-être un jour.
Non, je rigole.
Mais il y a de la place pour tout le monde, mais peut y avoir des... est-ce que c'est un risque quand il y a trop d'égaux?
Non, mais les égaux, vous savez, les égaux... Il y a plus d'égaux aux échelons inférieurs. Là, c'est top niveau, là. C'est égo, c'est plus sincèrement. Je pense à mes collègues qui sont ou en Ligue 1 ou dans les divisions inférieures, ils ont plus de problèmes que moi. Hein. Je peux vous assurer parce que c'est pas avec les joueurs top niveau que il y a de la difficulté. Souvent c'est ceux qui sont en dessous au niveau. Donc non, parce qu'il y a une intelligence des uns par rapport aux autres. Il y a des affinités. Bon, moi je suis avec mon staff H24 avec eux, donc voilà, je vais pas tomber dans l'euphorie, mais ils savent pourquoi ils sont là. Alors évidemment, il y a des moteurs, et il peut avoir des moteurs à travers la technique sur le terrain. Il y a des moteurs expressifs, les leaders, moteurs c'est expressif, par le langage, voilà, chacun...
Il y a des ressorts aussi psychologiques. À propos de Mbappé, ça reste quand même le chouchou, l'un des chouchous du public français, dans le sondage évoqué tout à l'heure, Odoxa, RTL, Winamax. Il y a quand même une information qui nous a interpellés. N'Golo Kanté est devenu le joueur préféré des Français, juste devant Mbappé, mais N'Golo Kanté.
Oui, parce que vous en parlez beaucoup, beaucoup plus aussi, donc les gens sont influencés. N'Golo, il n'a pas le registre d'un attaquant, il peut marquer quelques buts, mais de par ce qu'il fait, puis tout le monde a dû regarder ses derniers matchs, et notamment la finale de Champions League. Donc, N'Golo est en moteur aussi.
Ça pourrait être un ballon d'or?
Il le mériterait. Maintenant, vous connaissez comme moi les critères. Je pense que ça concerne surtout les joueurs offensifs. Lorsqu'il y a eu un défenseur ou un milieu, c'est parce qu'il n'y avait pas de joueurs offensifs qui avaient vraiment marqué l'année footballistique, mais potentiellement de par ce qu'il fait. C'est pas d'aujourd'hui quand même, hein, donc, mais il fait partie de ces moteurs de l'équipe de France aussi. Il a une place. C'est pas par rapport à sa taille en disant qu'elle est petite. Elle est énorme. À l'extérieur, elle est...
Et lui, il n'a pas un ego surdimensionné en tous les cas.
Non, mais les autres non plus. Il a son ego, mais voilà, il est nature.
Restez
ils sont
avec
tous
nous.
Naturels.
Restez, ils sont tous naturels. Un peu bio, alors. On va dire ça comme ça, c'est à la mode. Ils sont bio.
Ouais.
Didier Deschamps, restez avec nous. Dernière ligne droite, publicité, information de 19h. Derrière 19h, une dizaine de minutes. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, Claire Fontaine, avant l'Euro qu'on attend avec beaucoup d'impatience. À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
La suite dont refait le match avec, pour invité spécial et exceptionnel, le sélectionneur Didier Deschamps. Dans l'immédiat, les informations en compagnie d'Hortense Crépin. Bonsoir Hortense.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. La mise en examen ce soir de l'homme qui a tué sa compagne jeudi en la poussant par la fenêtre depuis le 8e étage d'un immeuble à Colmar. Il vient d'être écroué et a reconnu les faits indiquant avoir agi après une dispute alors qu'il était ivre, selon la procureure. Près de 1600 personnes réunies cet après-midi à Paris pour rendre hommage à Clément Méric. Et cela au lendemain de la condamnation en appel de deux anciens skinheads à 8 et 5 ans de prison pour la mort du militant antifasciste. C'était en 2013 lors d'une bagarre. Cette information que nous signale notre correspondant à Nantes, Mathieu Lopineau, en Loire-Atlantique, à Saint-Brévin-les-Pins, sur la plage de l'Océan. Une petite fille de 5 ans s'est noyée. Elle est en arrêt cardio-respiratoire et a été transportée en urgence absolue au CHU. Lutter contre l'optimisation et l'évasion fiscale, c'est l'ambition du G7 qui annonce la mise en place d'un taux d'impôt minimal mondial sur les multinationales, au moins 15%. Une étape historique selon Bercy. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce d'ailleurs que Paris va se battre pour que le taux soit le plus élevé possible. Facebook, de son côté directement visé par la mesure, veut que la réforme fiscale internationale réussisse. On prend la direction de la Porte d'Auteuil pour Roland-Garros.
Roland-Garros 2021,
c'est sur RTL.
Et on vous retrouve Jean-Michel Rascol, qualification tout à l'heure de Nadal et de Djokovic pour les huitièmes de finale. Et ça continue avant le huis clos ce soir entre Federer et Kupfer.
C'est intéressant d'ailleurs cette qualification de Raphaël Nadal. Il a gagné 6-3, 6-3, 6-3. Alors on a regardé un petit peu les comptes et on s'est aperçu que ce troisième set est tout simplement le 30e gagné par l'Espagnol sur 2 ans. Il n'en a pas cédé depuis le début de la quinzaine précédente. Et donc c'est quand même assez incroyable de voir ce total de la part de Raphaël Nadal. La suite, eh bien, c'est Roger Federer tout à l'heure face à l'Allemand Kupfer. Il faut préciser que le court principal a été bâché, ces fameuses bâches verte, une note de couleur qui indique qu'il n'y aura pas de public tout à l'heure dans ce match à huis clos. Il faut espérer quand même que Federer puisse s'en sortir et qu'il n'ait pas comme ultime souvenir de cette quinzaine un court vide avec simplement quelques ramasseurs de balles et un arbitre attentif.
Merci Jean-Michel Rascol. Et puis en rugby, dernière journée du top 14. Toutes les rencontres ce soir à 21h05. Clermont, le Stade français, Toulon et Castres prétendants pour les deux derniers tickets pour la phase finale. Pau et Bayonne vont essayer de sauver leur peau. L'un d'eux devra descendre la saison prochaine. Enfin, en cyclisme, un final au sommet à La Plagne pour la 7e étape du Critérium du Dauphiné. C'est l'Ukrainien Marc Padoun qui s'impose. Richie Porte s'empare, lui, du maillot jaune. La météo demain va se stabiliser avec le retour des éclaircies sur la plupart des régions. Des orages en montagne dans l'Est et aussi des averses depuis la Lorraine jusqu'à l'Auvergne, mais aussi entre le Finistère et le Cotentin. Les températures demain matin de 7 à 19 degrés. Les courses à Auteuil, la combinaison gagnante, As, 9, 10, 11 et 2. 19h03 sur RTL et dans un instant la suite dont on refait le match et cet entretien avec le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h dans une quinzaine de minutes. Didier Deschamps, nous rejoindrons Sébastien Tarrago, Stéphane Poels pour débattre de toute l'actualité football, pour débriefer de votre intervention. Vous aimez les débats d'ailleurs, vous les suivez, vous les écoutez. Raphaël Raymond, le responsable presse de l'équipe de France qui n'est pas loin de nous, vous rapporte ce qui se dit dans les débats.
Oui, c'est très bien qu'il...
Non, ce n'est aucune prise sur vous, très bien, mais il vous donne des tendances.
Non, mais s'il y a un entraîneur qui signe ou s'il y a quelque chose qui se passe... Je lis rien, j'écoute rien. Je regarde les matchs. Je suis en immersion, même s'il y en a qui ne vont pas me croire, mais c'est la réalité.
Pas de revue de presse, pas de...
Non.
Un peu quand même. Que vous soyez imperméable à tout cela, on peut le comprendre à un moment donné.
Raphaël.
Il n'a pas de micro, Raphaël Raymond.
Tout au plus, parce qu'il y a les journaux qui sont là au château, donc je peux voir la première page, mais je ne lis rien et je n'écoute rien. J'écoute de la musique, je regarde beaucoup de matchs, les nôtres et ceux de nos adversaires, mais je suis en immersion totale et je fais ça depuis au moins 4-5 ans et ça me donne une tranquillité, une sérénité à toute épreuve.
Il y a un euro à jouer, Didier
Deschamps.
Oui,
ça je sais.
Il y a un euro à gagner. Oui. Vous vous souvenez, en 98, on avait parlé de... C'était un gadget médiatique, une récupération politique, on avait parlé de la génération black, blanc, beurre. Ouais. Là, on sort d'une... C'était moyen, parce qu'on a vu ce qui s'est passé derrière avec la récupération politique. Là, il y a un euro. La société ne va pas bien, elle est fracturée, fissurée. Le Covid met également les gens à bout de nerfs. Oui. Vous sentez que vous avez une responsabilité sur les épaules?
Responsabilité, c'est peut-être un peu fort. C'est vrai que le climat social est toujours difficile. Le football, le sport et le football en particulier, parce que c'est un sport populaire, a cette capacité sur un laps de temps de la compétition de pouvoir réunir tout le monde. Après, ça dépend. Des fois, vous parlez de 98, ça a été, on a surfé là-dessus un peu plus longtemps. En 2018, ça a été déjà plus court. Après, on ne va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On va pas. Oui, on fait une parenthèse la plus enchantée possible, qui réunit tous les Français, les Françaises, les enfants, papa, maman, grand-père, grand-père, avec un chouchou peut-être plus l'un que l'autre. Mais au-delà de ça, on n'a pas la capacité à résoudre les problèmes du quotidien. Ça, c'est pas de notre ressort. Après, qu'il y ait des récupérations différentes, il y en a toujours eu. Voilà. Après, à nous, moi en tout cas, je reste dans mon domaine, qui est le sportif, et je m'égare pas sur les autres... domaine dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants.
Philippe Sanfourche pour RTL.
Le retour du public dans les stades, progressif, on va en avoir déjà 5000, même si c'est dans un grand stade de France, c'est déjà pas mal. Vous allez perdre vos habitudes de pouvoir communiquer plus facilement à vos joueurs s'il y a du bruit dans le stade?
Non, ça c'était un des avantages, mais je préfère le perdre parce que, et c'est ce que j'ai dit à certains joueurs et à mon staff à Nice, parce qu'on a vu, on y arrivait avant, et la ferveur qu'il y avait à l'hôtel où on était, tous les jeunes, les moins jeunes, et d'avoir le stade qui est vide, c'est pas le vrai football. Je vais pas me plaindre non plus, puisque le football a maintenu son activité pendant toute cette année avec cette situation sanitaire très, très compliquée, mais oui, le foot, c'est des émotions et le public, les supporters font partie de cet environnement-là. Donc, on aura déjà un petit soutien contre la Bulgarie. Et puis après, bon, c'est de nouveau quasi normal. Dominique Pas Sévrac. En Allemagne, mais à Budapest où la jauge sera à 100%.
Dominique Sévrac.
On sort peu à peu de la crise sanitaire et les Français... Et quand on les écoute, ils disent l'Euro, ça va être un peu la première bouffée d'oxygène, le premier événement festif qui va se passer, alors que ça fait un an et demi qu'on est confiné ou qu'on peut pas exactement faire ce qu'on veut. Ça aussi, vous le sentez, vous avez ça dans votre entourage, des gens qui vous parlent de ce moment de joie qui va arriver après tant de privation.
Ouais, bon, je pense qu'ils ont eu d'autres moments festifs avant, avec les ouvertures des restaurants, de pouvoir recommencer une vie quasi normale, mais de voir des stades où les gens, les supporters, parce qu'on aura nos supporters aussi, qui peuvent se déplacer, aller dans les tribunes. Oui, c'est la vie normale, la vraie vie. On n'est pas encore sorti, ça va mieux. J'espère que ça ira dans ce sens-là, parce que tout ce qui est restriction à quelque niveau que ce soit et moins de liberté, ça fait mal. Quand on a moins de liberté, forcément, c'est pas bon pour notre morale. Donc là, de pouvoir avoir l'enceinte sportive où ils pourront s'exprimer et venir encourager l'équipe de France, et c'est quelque chose de très important.
Sur France-Bulgarie, retransmis sur M6, 5000 spectateurs, 5000 personnes invitées, des personnels soignants. Ça vous tient à cœur d'ailleurs, notamment. Ça aussi, parce que vous...
C'est pas moi qui décide
non,
ça, mais,
oui. mais c'est
mon président.
Vous êtes aussi dans les pièges jaunes. On parlera de Noël Le Graët dans un instant, mais vous êtes dans les pièges jaunes, etc. Oui. C'est quelque chose quand même qui est...
Ouais, beaucoup, moi, je le fais. Je pense que j'ai un rôle aussi à aider, sensibiliser. Beaucoup de joueurs, pour pas dire la quasi-totalité, sont dans le monde associatif aussi. Évidemment, reparler, mais on en parle beaucoup, et heureusement, du personnel soignant, mais ils étaient aussi importants avant la pandémie. Là, ils sont devenus, d'un seul coup, pour certains, essentiels, mais ils ont toujours cette capacité à sauver des vies. Et dans le contexte sanitaire qu'on a traversé, et encore aujourd'hui, heureusement qu'il y a des personnes qui sont là avec la compétence, mais aussi ils ont leurs limites, parce qu'il y a de la fatigue. Donc,
ce sont plus des héros que les footballeurs, que l'on porte au pinacle parfois.
Oui, nous, on n'a pas la capacité à sauver des vies. Donc ce qu'ils font, ils ne sont pas mis en lumière comme d'autres métiers par moment, mais comme le football ou le sport ou les autres grands sports, mais ils sont essentiels.
Philippe Sanfourche.
Tiens, puisqu'on parlait de Noël Le Graët, la communication est toujours parfaite, aussi bonne avec Noël Le Graët, parce que sans revenir sur l'épisode Karim Benzema, mais cette prise de décision, il a quand même pendant des mois, des années soutenu en fait votre ligne. Alors qu'au départ, on se souvient qu'il était quand même très défenseur de Karim Benzema. Il a toujours dit, c'est un garçon que j'aime beaucoup.
Moi aussi.
Et puis après, il a fini par en arriver à dire presque des mots définitifs en disant, bon, bah voilà, faut s'y habituer, sa carrière en bleu, elle est peut-être terminée. Est-ce que vous l'avez pas un peu surpris? Est-ce que tout s'est fait dans la plus grande fluidité?
Je suis pas là pour surprendre mon président. Vous savez, la relation de confiance, de respect que nous avons, évidemment qu'il a pas appris par hasard. Je l'ai tenu au courant de l'évolution. Après, comme la question sur ce sujet, moi, j'y répondais plus parce que j'y ai répondu, mais si c'est pour vous répondre toujours la même chose. Donc lui, vous lui posez systématiquement à chaque fois, à chaque rassemblement. Donc il y a répondu. Mais non, là-dessus, j'ai conscience. Pour moi, c'est essentiel dans le fonctionnement d'avoir cette relation entre le président et le sélectionneur pour la gestion des joueurs. Et je peux vous assurer, depuis qu'il m'a choisi, c'était à l'été 2012, j'ai toujours eu un président qui m'a fait confiance et qui a été derrière moi dans n'importe quelle situation. Ce qui n'empêche pas que nous avons, et nous continuons à avoir, beaucoup de discussions qui sont intéressantes parce qu'il a un vécu. Après, comme il me le dit, vous le savez, c'est moi le responsable du sportif. Donc c'est mes choix et ça se passe comme ça depuis le premier jour et ça sera comme ça jusqu'au bout.
Ce spécial Orphée le match touche à sa fin. Deux, trois dernières questions. Dominique Sévrac, le Paris.
Vous allez aborder votre quatrième phase finale de compétition. Ça fait 9 ans que vous êtes là. Est-ce que le plaisir est intact? Est-ce que parfois vous sentez usé? Est-ce que parfois vous avez envie de faire autre chose? Ou est-ce que c'est comme au premier jour?
Non, j'ai la même énergie, la même passion, la même détermination. D'ailleurs, je vous l'ai dit parce que vous m'aviez posé la question après le titre de champion du monde, si j'avais pensé. Non, à partir du moment où ça bouge pas, après, ça c'est de mon côté. Après, il faut l'autre côté. Il faut qu'on veuille me garder. Pour ça, il faut des résultats aussi. Mais je ferai autre chose à un moment. Mais je suis épanoui dans cette fonction de sélectionneur. J'ai conscience d'avoir à disposition quand même un réservoir et un effectif de très très haut niveau en qualité et en quantité. C'est le haut niveau, j'adore ça. Donc
si vous êtes champion d'Europe, la question se posera pas. Vous aurez
vous
de
me
toute
la
façon
poserez
envie
si
de
vous
continuer.
Voulez, mais c'est pas voilà comme après un titre de champion du monde. Il y a rien au-dessus, mais il y a d'autres choses. La vie ne s'arrête pas. Et puis comme je regarde jamais dans le rétro, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'objectif. Et là, il y a l'Euro. Et puis après, il y a la Nation League, Final Four, phase de qualification. Voilà. Mais tout en sachant que mon objectif avec mon staff, c'est de tout faire pour que ça se passe du mieux possible. Après, il y a la vérité du terrain. Mais
vous avez un contrat jusqu'au Qatar, Coupe du Monde?
Jusqu'en décembre 2022.
Quoi qu'il arrive, vous resterez sélectionneur?
Je n'ai pas de raison de...
Vous pourriez redevenir entraîneur de club?
J'y pense pas aujourd'hui. Je suis très bien là. Je suis très heureux. Je suis épanoui. Toutes les conditions sont réunies. Si, comme je l'ai dit à un moment, et je vais le redire, mais je le pense pas. Forcément, c'est factuel. C'est chaque jour qui passe, je me rapproche un peu plus. Mais je vais pas le dire parce qu'il va dire ah, il commence à penser. Après, c'est de l'interprétation.
Non.
Je vais même peut-être continuer après 2022. Tiens, vous voyez.
Après 2022.
Avec l'accord de mon président, bien sûr.
Didier Deschamps, après 2022, quel que soit le résultat, peut être encore le sélectionneur de l'équipe.
Quel que soit le résultat, mais ça dépend. Je suis soumis au résultat, non pas que j'ai un passif, enfin un passif qui devient un actif par rapport à ce qu'on a fait, mais je regarde mon homologue allemand, Joachim Löw, il était champion du monde en 2014, c'était le meilleur du monde. En 18, ça s'est très mal passé, il n'est pas devenu le plus mauvais pour autant. Et ça peut arriver, il est là, ça sera sa dernière compétition parce qu'il l'a décidé certainement. Il y a deux décisions, mais à partir du moment où les deux positions sont orientées vers la même direction, voilà, je suis là et je suis encore là pour un petit moment.
Et un président de la Fédération française de football, ça pourrait matcher ça?
Qui?
Vous.
Aujourd'hui, non.
Non, pas aujourd'hui.
Après, je sais pas, pour le moment, c'est pas, j'ai aucune ambition, parce qu'il y a quand même une notion politique en étant président. La politique et moi, c'est pas trop mon truc. Moi, mon domaine, c'est le sportif. Mais bon, je prends de l'âge aussi, même si je suis en bonne condition, je fais en sorte de me maintenir, mais J'ai passé le demi-siècle, donc on ne voit pas les choses de la même façon.
62% des Français, 88% des amateurs de football, Didier Deschamps estime que les chances de sacre des Bleus sont importantes. Les Bleus, les supporters, les Français en tous les cas, sont optimistes.
Oui, optimistes, oui. Qu'ils en aient envie, oui. Les joueurs en ont envie, moi aussi. Après avoir dit ça, ben, c'est sur le terrain et les adversaires aussi en ont envie. On n'est pas les seuls candidats possibles à un titre de champion d'Europe. Et déjà, en sachant les trois adversaires qu'on a dans notre poule, voilà, on a du costaud, du très costaud tout de suite.
Merci Didier Deschamps.
Avec grand plaisir.
Et la question à laquelle vous ne vous attendiez pas, je vais vous la poser. Je vous ai jamais entendu parler de l'actualité du FC Nantes ces dernières semaines, ces derniers mois.
Je ne parle pas, je suis très attaché et je serai très reconnaissant au FC Nantes, mais je pars du principe, depuis le départ, je ne parle pas de l'activité des clubs parce que j'apprécie quand ceux qui sont en club ne parlent pas de l'activité de l'équipe de France. Donc je reste à ma place.
Merci beaucoup.
Très heureux que le FC Nantes soit maintenu... En Ligue 1.
En Ligue 1.
Bien évidemment.
Merci Didier Deschamps de nous avoir accueillis à Clairefontaine. Merci à Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France. Merci à Philippe Sanfourche. On fait le match, va se poursuivre jusqu'à 20h avec Sébastien Tarrago et Stéphane Powels. Merci à Raphaël Raymond, chef de presse de l'équipe de France de football. Et merci à Julien Ababou pour la préparation de cet entretien pour RTL et M6. M6 et RTL qui proposeront une couverture tout à fait complète de ce championnat d'Europe et des matchs bien sûr de l'équipe de France. Merci Didier Deschamps.
Merci
et
à
plein
vous.
De belles choses.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Le retour d'On fait le match, après cette spéciale Didier Deschamps, Claire Fontaine, Philippe Sanfourche et Dominique Sévrac sont toujours là. Contrainte sanitaire oblige, Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe et la voix du Benelux, Stéphane Powels, nous rejoignent maintenant. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Le débrief de Deschamps, un mini débrief quand même. On parlera également du reste de l'actualité. Il y a plein de sujets, hein. La Ligue 1 à 18, Thierry Henry, éventuel sélectionneur de la Belgique, Pochettino porté disparu et bien d'autres thématiques encore. Nous sommes ensemble jusqu'à...
Il a le droit de se reposer.
20h. Il a le droit de faire un démenti aussi pour dire qu'il n'est pas intéressé pour retourner à Tottenham.
Mais c'est très bien pour lui tout ce qui se passe. Donc il boit du petit lait.
Et alors nous, c'est plus que du petit lait. C'est du lait écrémé, mais de qualité. Parce qu'on en parlait au moins avant.
C'est un peu gras quand même.
Au moins avant 20h. C'est pas grave. C'est pas grave.
Le lait écrémé, c'est pas suffisamment.
Un petit débrief. Le lait écrémé n'est pas.
C'est pas d'un point de vue gustatif, c'est pas ce qu'il y a de plus.
Oui, bon.
Hein bon, c'est pas grand pâtissier.
Franchement, sur le foot, parfois j'avais des doutes, mais au niveau culinaire, gustatif,
bon les amis, vous avez entendu l'idée des chances, c'était pour les auditeurs de RTL, c'était cadeau avant le coup d'envoi de l'Euro, avant France-Allemagne, bien évidemment, c'est une machine des chances. C'est une machine, c'est-à-dire qu'il répond aussi aux nombreuses sollicitations d'ailleurs, hein. Beaucoup de sollicitations sur l'Euro. Mais
pourquoi maintenant, pas avant?
Non, oui, alors voilà, on peut se poser la question, mais c'est une machine.
Il occupe le terrain.
Il a besoin d'occuper le terrain?
Non, mais il fait plaisir à tout le monde. Il fait plaisir à une grande maison comme RTL, à M6 qui en plus diffuse quand même des matchs pour un petit peu d'argent.
Mais RTL et M6 sont partenaires de l'équipe de France, mais dans le cadre de l'Euro, le partenariat ne va pas jusqu'à...
Oui, oui.
Donc, c'est pour tous les médias.
Mais il donne à des radios concurrentes, il donne aux journaux, il donne à la chaîne L'Équipe, il donne à Bein Sport, il donne, et il a toujours donné. Et c'est l'une des plus grandes de ses qualités, c'est-à-dire que en termes de communication, hein, j'entends, c'est-à-dire que globalement, on peut pas l'accuser d'être dans des guéguerres avec certains médias. Jamais, il ne se fâche concrètement avec personne, même si vous le critiquez. Moi, je l'ai beaucoup critiqué pendant la Coupe du Monde 2018 par rapport au jeu de l'équipe de France qui m'ennuyait profondément. Bon, ok, il le sait. Il m'en a voulu 2-3 mois et puis terminé.
Il est fâché avec personne, dit Deschamps.
Mais jamais fondamentalement.
Mais
il y a quelques journalistes, oui, qu'il ne va pas apprécier pour X et Y raisons. Mais peu importe, il passe au-dessus de cela. Parce qu'il sait que lui, c'est plus important.
C'est l'équipe de France qui en profite, Sébastien. Parce que quand tu regardes les chiffres régulièrement des sondages qui paraissent, il est au-dessus d'un Jean-Jacques Goldman, il est au-dessus d'un Omar Sy, il est au-dessus. Il a des scores de popularité qui sont dignes des républiques bananières.
Vous en êtes sûr de ça?
Ah oui, oui. Il y en a encore eu un récent dans le Parisien. Il a des chiffres de popularité incroyables.
Le fameux sondage de sympathie du journal du Dimanche depuis des années, c'était
Goldman. Le top 50 des
Goldman, alors qu'il a arrêté
des personnalités qui sont soumises. Excusez-moi.
Mais
Pardon ?
Qui sont soumises.
Le nom est soumis.
Le nom est soumis.
Ah oui.
C'est-à-dire que si vous en avez une autre en tête, vous ne pouvez pas la donner. Bon, c'est un autre débat.
Vous remettez en cause la fiabilité du baromètre.
Pas du tout. Pas du tout. Dimanche. Certainement pas.
Stéphane Powels.
Je suis venu très.
je reviens à Philippe.
Écoutez, je suis venu très tôt pour venir vous écouter, toute l'équipe. Et j'ai vu quand même que Christian, vous étiez un désosseur. Hein, c'est comme ça qu'il vous a appelé. Didier Deschamps vous a appelé un désosseur.
Oui, non,
avec beaucoup
titiller,
de boutade. Alors, je ris, mais je l'ai trouvé brillant, intelligent, mais comme tout le monde, je pense c'est une machine de guerre en termes de communication. Il sait exactement comment il doit répondre. Et en plus, surtout, il a cette faculté de pouvoir répondre, même du tac au tac. Quand il vient sur les 7 points sur 9 et qu'il dit écoutez, ces 3 matchs-là, s'ils font, on peut en mettre même 5 sur 9 jours. Enfin, j'ai trouvé intelligent dans ses réponses. Que vous posiez des questions tordues, mais ça, on le savait déjà, mais il l'a dit. Hein,
non, c'était pas la question qui était tordue.
Mais bien sûr, c'était drôle. J'ai beaucoup aimé la comparaison du sélectionneur et du convoqué. Hein, pour lui, il nous embrouille, quoi. Il dit qu'il n'est pas avocat. Qui ne convoque pas.
Mais là, il a tort. Sébastien Tarrago, Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac.
Oui, la sémantique.
Je veux dire, veux dire, tu es sélectionné.
T'es convoqué au rassemblement et tu es sélectionné une fois que tu es sur le terrain.
J'ai pas insisté au bout de 2 minutes de tour de manivelle, mais.
Convocation et sélection.
Mais non, sélection et convocation, c'est pas du tout la même chose.
Non. Et juste pour terminer, qu'il ne va pas partir suite à votre question, Philippe, il va rester donc bien sélectionneur. Donc ça veut dire que c'est ceux qui pensent que Zinedine Zidane va venir tout de suite. Je pense qu'il va encore bien rester quelques années.
Quel est le résultat qui décide quand même.
Il a quand même parlé de l'entraîneur allemand qui, malgré un échec, est resté en place. Hein, le petit message est passé, j'ai trouvé ça intelligent. Et puis, que Kanté, quand vous avez posé la question, que Kanté est devenu maintenant le joueur le plus aimé, il dit, mais c'est parce que c'est vous, les médias, qui parlez toujours de Kanté. Et je termine, où j'ai vu aussi que sur le sujet, et c'est ça, moi j'ai un grand respect d'Didier Deschamps, j'ai déjà dit ouvertement, mais sur Benzema, t'as l'impression que c'est un sujet tabou, mais il se positionne de rien, donc on peut pas en parler, c'est un non-événement. Et quand vous êtes venu, Christian, en lui posant la question, que c'était un petit peu un de ses chouchous à l'époque, il vous poliment.
Mais moi, je trouve qu'il en parle, Stéphane. Et c'est là où je trouve sa force, c'est-à-dire qu'il en parle longuement. Il répond à de nombreuses questions pour ne rien dire, certes. Mais oui, au final, il répond. Et donc, il y a une forme de frustration parce qu'ils veulent pas aller dans les détails, que tout est cadenassé, et que la communication de Karim Benzema va dans ce sens également. Mais il répond donc. Il est très fort par rapport à ça, en fait. Il arrive à noyer poisson sans s'agacer. Info,
hein. Il dit que c'est pas lié au match de mars. Donc,
il dit pas ça.
On va reprendre quelques phrases.
Il dit.
Mes amis,
que la réflexion. Pardon, vas-y.
Je retourne.
Allez-y.
On va prendre quelques phrases.
Ouais,
après
bien.
La publicité. Et après avoir retrouvé également Jean-Michel Rascol pour un point toutes les demi-heures, c'est Roland Garros et c'est sur l'antenne de RTL.
Ah oui, j'ai français.
A tout de suite.
On refait le match sur RTL. RTL. Roland Garros 2021.
Roland Garros toutes les 30 minutes sur l'antenne de RTL et le samedi soir également en compagnie de Jean-Michel Rascol ce soir. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir messieurs. Au moment où un Italien pénètre sur le court, Matteo Berrettini, on parle beaucoup des Italiens parce qu'on n'a pas l'occasion, c'est vrai, de pas parler des Français. Berrettini serait, en cas de victoire ce soir, le troisième Italien qualifié pour les huitièmes de finale. Ils sont jeunes, ils ont la fougue, ils jouent bien au tennis et ils ont rehaussé donc le niveau de jeu de leur pays. Je vous entendais parler de Didier Deschamps, vous savez que c'est un excellent joueur de paddle. Et il est souvent, on l'a souvent entrevu derrière les joueurs de l'équipe de France de tennis qui malheureusement, on le sait, cette semaine ont disparu prématurément de Roland-Garros.
Et le sportif français, quand il est mis dans un confort, c'est pas là où il est le plus performant. Dixit Didier Deschamps.
Ça, c'est confort, c'est quand vous avez déjà gagné, ce qui est quand même pas trop.
C'est une bonne formule. J'aime aussi dire que le talent sans le travail, ça s'appelle le gâchis. Et malheureusement, ça peut correspondre à certaines attitudes parfois sur les cours.
Oh bah, le talent sans le travail, c'est du gâchis, mais c'est surtout une faute professionnelle.
Oui, c'est surtout une faute professionnelle.
Le talent sans le travail, talentueux, mais vous ne bossez pas.
Ah, bah, il y a des joueurs qui étaient. Je ne suis pas sûr, par exemple, que Yannick Noah ait été un grand travailleur. Il avait le talent, il travaillait assez pour pouvoir être au top niveau.
Ça dépendait. Yannick Noah, il travaillait beaucoup par période.
Oui, surtout
quand il travaillait, il faisait pas semblant.
Le Paul voilà. Pogba.
Non, mais il y a du gâchis quand je vois Goffin qui était annoncé le Belge comme un top 5, bah, il n'y arrive jamais parce que je pense qu'il
a, pour il a moi, perdu au premier tour le premier jour.
Mais bien sûr, il y a du talent, mais il y a un manque de travail. C'est il faut
un super
dire
joueur,
chose,
mais il a un peu le physique de Gasquet. Il y a un moment, dans ce tennis-là, c'est difficile d'exister au-dessus d'un certain niveau avec ce physique-là.
Et il a prouvé qu'il pouvait battre, sur le même tournoi, il a battu tous les plus grands. au Masters. Donc oui, ça veut dire que tu peux le faire. Ça veut dire que tu peux le faire.
Sur une saison.
Bon, on est parti sur le tennis, là.
Oui,
Juste un mot pour vous dire qu'on verra Federer tout à l'heure à huis clos. Malheureusement, je dirais, parce que si jamais le maître devait perdre ce soir, il ne faudrait pas qu'il conserve comme ultime souvenir de cette édition des bâches vertes et quelques ramasseurs de balles.
À suivre, merci Jean-Michel Rascol. À suivre.
Bonne soirée, messieurs.
Merci Jean-Michel. Prochain point tennis dans le flash de 20h. Donc le débrief de Didier Deschamps, on a parlé de Karim Benzema et pas uniquement de Karim Benzema. Alors effectivement, dans la réponse à un moment donné formulée par le sélectionneur, on a eu le sentiment, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer et contrairement aussi à ce que certains nous donnaient comme information, que le fait de prendre Karim Benzema, eh bien, avait déjà été déclenché dans la réflexion de Didier Deschamps et de Guy Stéphane, d'ailleurs, ça a été une à deux, avant, bien avant la séquence du mois de mars. Mois de mars, 3 matchs éliminatoires, pas extraordinaire, mais enfin 7 points sur 9, ouais. Deschamps nous l'a rappelé, mais que voilà.
Mais les réflexions. Non, mais déjà, je trouve pas que ce soit si clair, mais les réflexions, heureusement que les réflexions, elles sont sur la table. C'est pas, tu te lèves un matin, tu dis, je vais prendre Benzema. C'est pas ça. Moi, je vous dis, et je vous confirme ces informations, que ce qu'il s'est passé au mois de mars, et notamment la relation entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, l'a incité à prendre cette décision.
Je suis convaincu, je vais dans le même sens, mais je suis convaincu d'ailleurs par rapport à vos questions, quand il dit « mes choix ne sont que sportif, parce qu'il est plus malin que tout le monde et qu'il sait très bien, pour les raisons que dit Sébastien, qu'à un moment, il ne peut pas passer à côté et qu'il a besoin de Benzema. Je ne suis pas sûr qu'on essaye de trouver, plein d'autres raisons, et vous avez essayé de le ramener sur ce terrain-là, Christian, et non, je pense qu'il est assez sincère quand il dit, moi, c'est le ballon, c'est le terrain, j'en avais besoin.
Philippe Saint-Fauche.
Dans le sportif, tu peux tout mettre. Oui. Tu mets la performance sur le terrain, tu mets l'ambiance dans ton groupe, on parlait des histoires de statut, de relations, et tout ça, ça fait partie du sportif. Et d'ailleurs, quand je le relance sur cette notion, cette relation avec Kylian Mbappé, il, à deux reprises, il dit il y a de la place pour tout le monde. Mais bien entendu qu'il fallait impulser quelque chose de nouveau, parce que d'un côté, Kylian Mbappé prend une place folle dans cette équipe, et globalement dans le foot français en ce moment. Et à côté de ça, Antoine Griezmann, jusqu'au dernier moment, on l'a dit, on le répète, Antoine Griezmann, là, il semble finalement bien digérer cette information, mais au moment où il a appris sur son canapé, quand il a vu la liste,
et
qu'il
a vu
Karim Benzema,
ça l'a gonflé, tu
qu'il a passé une nuit compliquée quand même.
Vous êtes sûr de ça?
Mais oui, ça fait des années qu'il cherche son statut par rapport à ce qu'il fait sur le terrain. Enfin, il faut les regarder les matchs, il faut regarder les stats. C'est-à-dire, qui est décisif depuis 4 ans l'équipe de France?
Griezmann.
Le numéro 1, c'est Griezmann. Sauf que dans l'appréciation générale, que ce soit les observateurs, le grand public, il est 3e ou 4e.
Et il y a un
moment qu'il le vive. Enfin, c'est normal aussi que lui, pour être performant, il a besoin de sentir
surtout,
quelque chose.
Et surtout, il vit en club aussi. Il n'est pas fou, il connaît le foot. Il sait que Didier Deschamps a fait son équipe pour lui. À chaque fois, ce sont des schémas tactiques pour Antoine Griezmann. Et donc là, il savait bien, en tout cas, il avait peur qu'avec le retour de Karim Benzema, eh ben, les blocs bougent. Alors, il se trouve que pour l'instant, Didier Deschamps, il semble prêt à prendre un risque énorme pour satisfaire tout le monde. Ce 4-4-2 en losange, avec Antoine Griezmann en soutien des deux attaquants Mbappé et Benzema, ça c'est pour satisfaire tout le monde.
Pour ceux qui suivent le football de façon un peu moins pointue que nous tous, cette formule en losange donne une équipe de France beaucoup plus offensive et avec des joueurs qui vont peut-être moins travailler défensivement.
En tout cas, chacun est à sa place. Chacun est à la place qu'il aime. Mbappé et Benzema sont deux attaquants.
Mais alors c'est ce que dit Sébastien.
Et Griezmann est juste derrière.
Ça fait plaisir à tout le monde.
À distribuer.
Et ça c'est au moment du coup d'envoi. Mais quand il va falloir jouer contre le Portugal et que ça va.
D'ailleurs en cours de match à Nice, à un moment Griezmann s'est retrouvé à droite.
Hein. Exactement. Et c'est ce qui se passera.
Messieurs, vous qui aimez le foot offensif, c'est quand même très intéressant d'un sélectionneur qui prend cette option là. Et je suis désolé d'un regard extérieur. Vous me dites ils vont pas défendre, ils vont défendre moins différemment dans ce système là. Quand t'as Kanté et Pogba, t'as quand même des mecs qui sont capables de venir chercher les ballons et récupérer.
Défend. Donc
mais bien sûr, moi je trouve que c'est une bonne solution et j'ai trouvé ça très intéressant.
Benzema ne défend pas, tu trouves?
Non, mais on peut pas. Il fait le replacement nécessaire, mais il défend pas. Antoine Griezmann défend.
Si.
On parle de qui, là?
Non, mais si Karim Benzema est un défenseur, un attaquant défenseur,
et il fait fluctuer les autres, je trouve.
Ah, ça, c'est sûr. Mais
ça, c'est déjà intéressant.
Bon, pour le reste, il y en a qui peuvent penser que XY a pu influencer le retour de Karim Benzema. Vous pouvez faire les campagnes médiatiques que vous voulez. Il n'y a pas une personne qui va m'appeler, quelle que soit sa responsabilité, même dans les politiques, pour me dire « il faut prendre celui-ci ou celui-là, autrement, je ne serai plus là à parler devant vous ». C'est ce qu'il a dit, notamment. Son retour, lui en avait besoin, moi, j'en avais besoin. Moi, je crois qu'il y a une notion également, au-delà de l'aspect sportif pur et dur, mais au-delà de l'aspect politique que lui récuse, il a envie de tourner une page. Alors, est-ce que c'est un calcul pour la suite des opérations? Je n'en sais rien. Quel calcul, je ne sais pas.
Mais il n'est pas dingue quand même. Hein. Mais il sait qu'à un moment, ses attaquants ne sont pas tous au top s'il ne le rappelle pas. S'il rappelle
oui,
pas.
Mais là, tu reviens. Ouais,
mais c'est dans tous ses choix qu'il fait.
Bon.
Dans tous ses choix qu'il fait.
L'aspect totalement.
Pardon.
Je trouve qu'il y a aussi une notion de. J'allais dire toute puissance, c'est un peu exagéré, mais. De positionnement, c'est-à-dire qu'il a décidé au moment où il le souhaitait, quand il le voulait, de faire revenir Karim Benzema vis-à-vis du groupe, vis-à-vis du joueur, vis-à-vis de Noël Le Graët, vis-à-vis de l'opinion publique. C'est lui le patron.
Est-ce que j'ai dit une seule fois, que Benzema n'était pas sélectionnable? Jamais. Silence, long silence. Il répète jamais.
Oui, mais ça, là-dessus, c'est le seul moment où il se contredit fortement, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, encore une fois, moi je l'ai interviewé le 30 septembre. C'était il n'y a pas longtemps. Quand même, j'avais fait un documentaire sur le métier d'entraîneur, et il me dit quand on franchit la ligne, c'est terminé. C'était le fin septembre, ouais. C'était pas il y a 3 ans, mais ça, il peut pas revenir en arrière. Ouais, c'était la réalité.
Quelque chose entre
en conférence de presse, et je le comprends totalement. Les suiveurs entre guillemets des Bleus. Mensuel, on va dire, enfin permanent, ne posait plus la question parce qu'il savait qu'il n'y avait plus de réponse. Mais là, c'était une interview qui se passe dans un cadre différent, un peu comme vous, aujourd'hui. Et il a dit clairement, quand on dépasse la ligne, on dépasse la ligne, c'est fini.
19h38 minutes, les messages sur le compte Twitter @RTLFoot. Bonsoir, Baptiste Durieux.
Bonsoir, Christian, et bonsoir à tous. Effectivement, beaucoup de messages, Axel notamment. On a quand même toujours la même réponse de Deschamps sur Benzema. Si on suit sa démonstration, en fait, ça veut dire que Benzema n'aurait jamais dû quitter les Bleus. Ça manque de logique et de cohérence qu'ils disent les choses sincèrement une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Et message de Simon qui nous dit: depuis le retour de Benzema, j'ai tout pardonné à Deschamps et je suis très heureux en fait de savoir qu'il veut et va rester encore un petit moment. Il est parfait dans ce rôle à tout point de vue. On a tous envie de Zidane, mais je reprendrai un peu de Deschamps encore.
Et vous continuez de nous rejoindre sur le compte @RTLFoot. Avant la petite musique qui annonce la publicité, deux autres points. Merci à Damien pour la réalisation. C'est de ma faute, mais mea culpa Damien. Deux choses: N'Golo Kanté, Ballon d'Or, il le mériterait, mais ça concerne surtout les joueurs offensifs, mais sa place est énorme au sein de l'équipe de France de football. Mais il le mériterait, selon le sélectionneur.
Ouais, mais il va le mettre dans une position qui n'est pas sa meilleure. Sujet suivant.
Devant la défense.
S'il garde ce système, en sentinelle, N'Golo Kanté est tout à fait capable de le faire, mais ce n'est pas son meilleur poste. Aujourd'hui, il a réalisé une saison exceptionnelle à deux récupérateurs et à un poste quelque part très offensif.
Il a fini en 10.
Donc, ça commence à faire beaucoup d'attaquants action.
Il a beaucoup défendu quand même lors de la finale.
Évidemment. Mais tu sais très bien que ce n'est pas pareil de se retrouver en sentinelle que de se retrouver à défendre à deux milieux de terrain
défensif.
Mais
Paul Pogba pourra peut-être l'aider.
Mais les deux joueurs fonctionnent bien. Hein,
Hommage appuyé à son président Noël Le Graët, qui salue la qualité des échanges.
La cote était faible.
Mais beaucoup de discussions avec Noël Le Graët, mais c'est moi le responsable du sportif et ce sera comme ça jusqu'au bout.
C'est ce qu'on les disent d'autres.
Entraîneur de club, je n'y pense pas. Je vais peut-être même continuer après 2022. Là, je pense qu'il était un peu sur le ton de la rigolade.
Bah, pourquoi pas? Vous pensez qu'il va arrêter?
Après 2022?
Moi, je pense que s'il peut faire 20 ans, il fera 20 ans.
Non,
si il va faire 13 ans, là.
Il a cité l'eau.
C'est pas un moment où Zidane est libre qu'il faut se priver d'envoyer ce genre de message.
Didier Deschamps, il a conscience d'être un privilégié, il le mérite, hein, attention,
le dit,
mais c'est une vie de rêve. Sélectionneur, ça lui plaît beaucoup. Il reste sur une expérience en club un peu traumatisante à l'Olympique de Marseille. Il prend un plaisir inouï dans cette fonction, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Moi je pense que s'il peut continuer
Mbappé a 22 ans, hein, vous pouvez encore gagner pas mal de trucs.
Et les autres sont jeunes aussi. Hein. Bon, Dembélé, Coman.
Et président de la fédération, pas aujourd'hui, hein, qu'il dit. Hein. Bah, je ne suis pas un politique, etc. Il est un politique, mais ouais. Pas aujourd'hui.
Dans 20 ans.
Pas aujourd'hui.
Dit, Sébastien
Allez,
Tarragou.
19h41,
enfin,
minutes,
faut gagner, hein.
Une page de pub, voilà pour le débrief Didier Deschamps. Entretien réalisé à Clairefontaine en début d'après-midi. Et au niveau des informations, j'ai vu circuler deux informations concernant deux joueurs. Deux joueurs selon lesquels Rabiot et Coman étaient absents de l'entraînement des Bleus.
Et Lucas Hernandez.
Donc ça en fait trois pour les petits bobos qui sont à soigner sans gravité. La publicité, puis toute l'actualité. L'actualité foot jusqu'à 20h. Restez avec nous si on fait le match.
On refait le match sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match jusqu'à 20h et après 20h, vous retrouverez ce soir Laurent Boyer, fréquence star, qui recevra Benabar. Pas de football, on a mis Silvestro, Domergue, Castaldi.
Tout le monde est au frigo.
Abou et
se repose. Bastin.
Au repos.
J'en connais quelques-uns qui ne se reposent pas forcément, mais... En tout cas, il ne travaille pas.
Non, mais on ne peut pas fonctionner comme ça ici. On veut des noms ou alors non, on ne dit rien.
Je plaisante.
Bon. La semaine prochaine,
ils ont, pour une fois qu'ils ont un week-end, ils peuvent en profiter un petit peu.
Ils ont des comptes Instagram. Si jamais on veut savoir, on peut regarder.
On devrait surveiller les amplitudes des emplois du temps plus sérieusement que cela. Parce qu'ils ont des week-ends, eux. Bon.
Pas souvent avec vous, on m'a dit.
Ce que je vous propose, c'est de sacrifier la tradition. On ne va pas faire les tirs au but. Là, on a un petit quart d'heure avec encore un écran de pub
pour il y a pas les deux pour il y a quelques faibles
mais on va évoquer plusieurs petits sujets voilà la Ligue 1 à 18 et bientôt peut-être même la Ligue 2 hein, je vous le dis tout de suite hein. Faudra peut-être attendre deux saisons mais ça
c'est
va venir.
À 14
est-ce que c'est une bonne solution pour sauver le football français il y a pas de coup de sifflet hein. Est-ce que c'est une bonne solution pour sauver le football français est-ce que quelqu'un a un avis
je vois pas pourquoi ça améliorerait le niveau
Dominique Cérac
bah si. Je vois pas en quoi, en enlevant deux clubs, tu améliores le niveau. L'histoire, il n'y a plus de ventre mou. Il y a où t'es très bon, où t'es très mauvais. Je vois pas en quoi, en enlevant deux clubs,
tu vas pas radicalement changer
la compétitivité.
Le niveau, mais par définition, que ce soit en sport ou à l'école ou où tu veux, quand tu enlèves des plus mauvais et que tu concentres avec des meilleurs, il y a un moment où tu améliores la compétitivité. C'est-à-dire que tu réduis l'effectif tu tires vers le haut parce que tu enlèves les plus mauvais.
Philippe,
bah, bien sûr, c'est mathématique.
Je peux pas toujours être d'accord avec ça parce que moi je pense.
Mais en Belgique, attention, je suis pas en train de dire qu'il en fait pour ça.
Non. Les promus cette année. Les promus Lens, ils se sont bien comportés. Je pense qu'il y a de la place pour toujours deux équipes supplémentaires. Ça fait du bien aussi de voir d'autres villes de France qui ont créé une dynamique et qui essayent de monter.
Non, mais c'est pas le plus beau village de France. Ce qu'on fait, c'est un championnat pour être compétitif. Il n'a pas échappé quand même
que
la France cette année.
Je vais te répondre que Lens a montré qu'il pouvait être compétitif. Je vais te montrer que cette saison, Lens a pu être compétitif et Metz aussi les équipes qui sont montées.
Non, mais c'est un bon constat
de nivellement vers le haut.
On voit où est le problème, je trouve pas que la solution règle le problème.
Donc toi tu pars du principe que Philippe, que puisqu'il y aura deux équipes de moins, les autres vont être meilleures. Mais donc fondamentalement ce sera les meilleurs joueurs quoi. On enlève les plus mauvais joueurs des deux équipes les plus mauvaises en gros. Je pense que le football français va très mal et que de plus en plus de joueurs vont encore partir et que les équipes qui seront 15e, 16e, 17e, 18e, elles seront aussi faibles que celles qui sont 19e et 20e aujourd'hui.
Non, mais non.
Mais si.
Bah non, je
d'ailleurs,
suis désolé aujourd'hui.
D'ailleurs, il y a un truc historique.
Même si Strasbourg n'était pas exceptionnel, il était quand même meilleur que Dijon.
À la fin des années 90, on est passé à 18, ça a duré 4-5 ans. On a vu les résultats en Coupe d'Europe, ça a été une catastrophe.
Sous la présidence de Noël Le Graët.
C'est pas en 4 ans que tu peux tirer des conclusions.
Je crois qu'ils sont sur du court terme.
Ouais, jusqu'à 20h sur la Ligue 1 à 18.
Donc en fait, ils le font uniquement pour des raisons économiques pour finir.
C'est uniquement pour
se partager le gâteau à moins. Comme le gâteau va diminuer, il y aura moins à distribuer. Donc quand ils nous font croire que c'est pour qu'on soit meilleur en Coupe d'Europe, c'est une blague.
Là, je suis entièrement d'accord.
Mauricio Pochettino est porté disparu. Rumeur de départ. Mais pourquoi ne dément-il pas ?
Et en vacances, à la plage, c'est le rêve pour lui.
C'est-à-dire ?
Que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est, quoi qu'il arrive, très positif pour lui. Il serait susceptible d'être appelé par d'autres clubs qui rêveraient de recruter Mauricio Pochettino. C'est très bien pour lui, je vois pas où est le problème.
Pourquoi ils s'embêtent?
Ça marche si c'est le Real Madrid qui
la rumeur. Ouais, Tottenham aussi. Bah,
Tottenham 7e du championnat d'Angleterre, où il n'y a pas Mbappé à ma connaissance.
Donc ils avaient viré quand même.
Et il ne jouera pas. Sûr. Et a priori, Mbappé, s'il part du Paris Saint-Germain, ça ne sera pas
le championnat d'Angleterre. Tu sais que c'est toujours.
C'est bien, ouais. mais différent. Quoi l'intérêt de laisser fuiter, filtrer l'idée que Tottenham.
Mais c'est peut-être aussi pour envoyer le message que ça le fatigue.
D'où ma question, s'il ne dément pas, c'est qu'il est fatigué.
Eh bien, parce qu'il est déjà parti. Mais parce que Pochettino. Il est déjà parti dans sa tête.
Ah, ça, je sais pas.
Moi, je pense que vu les comportements, vu la relation qu'il a avec Leonardo, vu. On l'a bien senti. Ça peut arriver, hein, qu'à un moment, ça colle pas. Et c'est compliqué. Je pense que dans sa tête, il est prêt à se barrer.
Mais après, je pense quand même qu'il a conscience que. Effectivement, entraîner le Paris Saint-Germain avec cet effectif-là, peut-être que ça ne reviendra jamais.
Il t'en sait rien. Hein.
Oui, mais peut-être que ça ne reviendra jamais.
Ancelotti, il est revenu.
Il fait avec sa personnalité ce que Tourelle faisait avec sa personnalité, différemment, c'est-à-dire radicalement différemment. Tourelle, il rentrait en conférence de presse, il allumait tout le monde, il disait alors moi, j'ai demandé ça à tel poste, j'ai pas, comment on fait, on se revoit dans 3 semaines. Et du coup, ça gonflait tout le monde et ça faisait une cocotte minute. Lui, il fait différemment, il laisse filtrer ça. Mais pour asseoir un peu plus son poids dans le club, c'est quand même.
Ce qui est sûr, c'est qu'il laisse bien filtrer globalement.
Le trait commun, c'est quand même qu'il y a un petit souci
d'entente. Est-ce qu'il peut fragiliser Leonardo quand même, hein.
Cette affaire peut fragiliser Leonardo. Au niveau du sportif,
je suis pas sûr qu'il sera encore là à la fin de l'été, moi.
Mais moi non plus.
La fin de l'été, ça finit le 21 septembre.
Je n'arrive pas à confirmer l'information sur laquelle Leonardo n'était pas au match du titre des Parisiennes hier.
Les vacances. Non, après, il peut être en train de négocier un transfert.
Tout à fait d'accord.
Mais il y avait du monde. Hein.
Pardon ?
Il y avait du monde.
Moi, j'entends parler de Luis Campos. J'entends parler du directeur sportif de la Juve.
C'est leur premier titre des filles. Je pense que sa place était d'être là.
Publicité et ensuite Vieira, Galtier, Thierry Henry, la Copa América. Et voilà.
On refait le match sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Il est déjà 19h53, rendez-vous compte. La Ligue 1 à 18, Pochettino porté disparu. Tiens, Vieira, bonne ou mauvaise idée à Lille, on en parle, paraît-il.
Mauvaise idée.
Pourquoi ? Parce que. Alors, moi, je ne vais pas revenir sur ses qualités tactiques, hein, puisqu'il a apparemment fait du bon travail à certains endroits. Je pense qu'il ne correspond pas à l'image du Nord. Je pense que les supporters, les dirigeants du club, ceux qui travaillent dans ce club au quotidien, les kinés, tout ça,
pourquoi
ont besoin du. Parce qu'il est trop dormeur. Je vais te répondre, voilà mon avis.
Mais ça
il a un côté, et que je respecte, taiseux, il se positionne du
jour comme. Il faut quoi là-bas ?
Il faut un mec comme Galtier qui met des.
Patrick Vieira, il suffit de le réveiller. Un tout petit peu.
Non, parce que
il a commencé sa carrière d'entraîneur, il prenait des rouges sur
non,
rouges.
Non, mais je trouve que.
Et Vieira, on lui a dit bon, écoute, Patrick, ce serait pas mal que t'arrêtes.
Je suis pas sûr dans la mentalité du club qui puisse faire transmettre du fighting spirit dans ce club. Je vous dis ça en tant que. Et j'assume moi toujours que j'aime le LOSC.
Laurent Blanc, c'est parfait pour lui.
Ah, c'est pas forcément dans l'état d'esprit que le. Et pourtant, c'était presque fait. Hein. C'est pour question de pognon. Hein.
Christophe Galtier à Nice, pourquoi ça coince ?
Je crois que Lille est un peu gourmand.
Dominique Sévrac.
Lille se dit, il a encore une année de contrat, nous on manque d'argent. Donc Olivier Létan se dit, il va falloir que Nice paye, puisque Nice en plus est détenu par des milliardaires, ou au moins un.
Ils ont les sous à Nice.
Bah, donc il se dit, vous le voulez, et vous payez. 5 millions d'euros.
Ils vont 5 payer. Millions d'euros. Mais ils payeront. Ils payeront.
Non, mais c'est ce qui veut dire que Galtier pourrait rester à Lille ?
Non.
Au final, ça paraît compliqué.
La relation Létan.
On ne peut jamais garder l'entraîneur.
N'est pas exceptionnel. La relation Létan-Galtier n'est pas exceptionnelle.
C'est un euphémisme.
C'est un euphémisme. Donc j'essaye d'être contenu. Par contre, je pense qu'ils vont mettre du pognon à Nice. Et c'est un jeu de Létan pour faire monter le pognon. Ils vont le mettre.
Mais Nice, est d'accord avec Galtier. Ça ne les empêche pas de travailler. Donc ils ne sont pas pressés par rapport à cela. Et eux, ils attendent. Parce que de l'autre côté, à Lille, il faut recruter un entraîneur aussi. Donc le problème qu'à Nice, Lille l'a aussi.
Tiens, il y a qu'un moment, il va falloir que tout le monde se mette un petit peu d'accord.
Il y a quelque chose qui ne va pas laisser contenu la voix du Benelux, comme il vient de le dire Stéphane Powels. Thierry Henry revient adjoint de Roberto Martinez, rumeur au poste de sélectionneur après l'Euro. Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de Belgique après l'Euro.
J'en ai déjà parlé, je ne vais pas refaire. Thierry Henry, pour moi, c'est...
Non, attention. Attention.
Non, mais je vais être mesuré. J'ai un respect énorme de la carrière de joueur de Thierry Henry. Il va à Monaco, il se viande, il part de l'Impact Montréal parce qu'il veut revenir pour sa famille. Il débarque 15 jours avant l'Euro chez les Diables Rouges. On nous fait croire que tous les Diables Rouges sont amoureux de Thierry Henry. Il faudra qu'on explique ce qu'il a déjà fait
à la première fois, à son premier passage, tout le monde n'est pas si unanime que cela. Et secondo, on a deux personnes, dont Michel Preud'homme et dont Philippe Clément, l'entraîneur de Bruges, qui pourraient très bien être sélectionneurs de cette équipe nationale. Mmh. Et je ne pense pas que dans les cœurs aussi de la presse belge, Thierry Henry a marqué les esprits.
Il est pas parti, Roberto Martinez.
Il a été. Bon, il va partir, il se propose partout. Thierry Henry, vraiment, pour être. Pas trop sévère, mais je vous le dis, les médias belges n'ont pas un grand souvenir de comment il s'est comporté. Parce qu'il ne donnait pas d'interview, parce qu'il il s'est pris pour un autre, quoi.
Bon, c'est rare.
Non, mais voilà, vous me demandez.
Je suis surpris, parce que nous, on n'a jamais dit ça.
Bon, le retour, vous allez déraper. Vous allez déraper.
Mais donc, ça veut dire qu'il n'a pas changé.
Dites du mal de Carlo Ancelotti, vous l'avez vu venir au Real Madrid?
Alors ça, je ne l'avais pas vu venir, mais alors lui, c'est la crème de la crème, lui.
Oui, d'accord.
C'est un super mec.
Parce qu'il fait des déjeuners parfois avec les journalistes.
Il sait y faire. À vestiaire, il a été viré comme un malpropre par Florentino Pérez. Il revient. Bon, je comprends parce qu'Everton.
Il avait joué au pompier de service après Mourinho. C'est bien ça.
Il avait gagné la Ligue des Champions.
Il a formé le successeur, en l'occurrence Zinedine Zidane, qui derrière en a enchaîné trois. Donc il a un passage. Mais non, ce qui est plus surprenant, c'est qu'on sentait qu'il y avait un moment clé. C'est pas rien, la rupture avec Zinedine Zidane. Et on pouvait imaginer que ça puisse être pour une transition un petit peu plus abrupte. Alors que là, c'est quand même un retour en arrière, quelque part. C'est pas du tout un mouvement vers l'avenir. Donc, moi, je demande à voir. Mais s'il faut...
Mais Philippe, d'ailleurs, ça pose question sur Antonio Conte. Conte. Qui est libre, qui est un super entraîneur. Ouais.
Et qui n'ira pas à Tottenham, ils n'en veulent plus.
Et qui fait peur.
Ouais. Mais il paraît qu'il est.
Il est extrêmement dur avec ses joueurs, mais il est extrêmement dur avec ses dirigeants.
Et le vestiaire en a marre au bout d'un
moment. Oui, mais à Paris, ce serait bien des résultats.
C'était un mini, on refait le match. Bien sûr,
on a pris du plaisir à vous écouter.
Non, Didier Deschamps. Écoutez,
vous étiez avec lui.
Merci Sébastien Tarrago.
C'est Didier Deschamps qui était la prochaine fois.
Merci Stéphane Pau.
Non, mais c'était la bonne heure.
Dominique Sévrac, bravo pour l'ensemble de votre heure.
Merci.
Même chose pour Philippe Sansfourche. Après 20h, pas de football, comme je vous l'ai dit. Donc, on retrouvera Laurent Boyer, fréquence star, qui recevra Benabar. Et puis, le foot reviendra, évidemment, très très vite sur RTL et dès vendredi prochain pour l'ouverture du...
Exact.
L'Euro.
Et puis, il y a un petit match quand même avant. Il y a un France-Bulgarie.
Oui, non, mardi soir.
On sera quand même en direct.
J'ai oublié France-Bulgarie. Mardi.
C'est mardi au
sur
de France.
RTL. Et avec du public.
Et vous, monsieur les osseurs, vous partez faire du vélo.
Le Tour de France un peu plus tard. Merci, messieurs. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Merci de votre fidélité, publicité et les informations. Ciao, ciao.